Vous écoutez France Culture.
Le magazine de l'environnement, on parle ce matin d'un projet pharaonique. On est bien ici dans cette petite salle, c'est un hangar, c'est ça,
oui,
Dominique Fresneau, qui s'appelle la vacherie.
Alors c'est un hangar, c'est un lieu de résistance pour nous, c'est vrai que symboliquement on a un petit peu aménagé de briques et de broc ce hangar pour en faire un lieu de résistance.
Alors il y a du café chaud en thermos, il y a un poêle et puis il y a des affiches. Lorsque le peuple s'accroche, le peuple gagne. Plogoff, le pèlerin, le carnet, le Larzac, Guérande, Donge-Est, Notre-Dame-des-Landes, même combat, même victoire. Le vôtre de combat, c'est Notre-Dame-des-Landes et vous dites, on a ça dans les gènes.
C'est-à-dire que quand on a, moi je suis né sur le terrain, donc quand on a cette épée de Damoclès au-dessus de la tête depuis plus de 40 ans, eh bien c'est vrai qu'on peut dire que moi à 50 ans je l'ai dans les gènes un peu ce projet d'aéroport, dans le sens où vraiment il nous a pourri la vie, il a pourri la vie à mes parents et il va pourrir la vie si ça continue à une autre génération derrière nous, donc c'est vraiment quelque chose qu'on a dans les gènes je pense, oui.
Comment est-ce qu'il vous a pourri la vie au quotidien ?
Au quotidien, des parents qui sont en agriculture, qui essayent de faire vivre leur famille de la meilleure manière qui soit, en préservant bien sûr aussi l'environnement, puisqu'on a ici un bocage exceptionnel. Et en fait, les investissements sont bridés par ce projet d'aéroport, justement. Donc c'est toujours un souci. Et en plus, pour on va dire pérenniser l'agriculture sur le secteur, eh bien on a de plus en plus de problèmes à trouver des jeunes qui veulent bien s'installer sur le secteur. Quoi. C'est difficile de continuer ce métier.
Vous dites aussi, Dominique Fresneau, que c'est un combat difficile parce que tellement long.
Alors c'est vrai qu'on est passé par beaucoup de phases. Hein, et pendant 20-25 ans, ce projet est resté latent. Et on pensait avoir gagné et puis en fait, il est ressorti en 2000 avec... c'est la gauche qui a porté ce projet en 2000 et là on a vraiment lancé, c'est la CIPA qui s'est créée.
La CIPA c'est ?
Alors la CIPA c'est l'association citoyenne intercommunale des populations concernées par le projet d'aéroport. Et c'est vrai que c'est difficile de mener en même temps une activité, on va dire, pour nourrir sa famille et en même temps de lutter contre ce projet d'aéroport. Ça mobilise beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et en même temps, c'est très satisfaisant parce qu'on a vu aussi plein de gens nous rejoindre sur cette opposition. On a vu qu'au départ, c'est parti d'une association, c'est vrai, de riverains qu'on a vite balayé puisque, en fait, on a cherché tous les arguments qui pouvaient s'opposer à ce projet, qu'ils soient environnementaux, qu'ils soient même au niveau de l'emploi, puisque l'emploi, en fait, il n'y en aura pas tant que ça de créer. On se rend compte que c'est juste un transfert de l'aéroport de Nantes à Notre-Dame-des-Landes, et donc il n'y aura pas spécialement d'emploi, mis à part la construction. Mais si on doit construire quelque chose, autant que ce soit réellement d'utilité publique, et donc cet argument de l'emploi ne tient pas. Moi, je pense que pour beaucoup de riverains ici, la lutte est pesante, mais en même temps, on se sent dans le vrai. Et donc, à partir du moment où on lutte pour quelque chose qui, pour nous, est juste, on sait qu'au bout, on va gagner. Il faudra du temps, mais on gagnera.
Mais donc, vous dites qu'il ne faut surtout pas penser que c'est une lutte de riverains, justement. Ce n'est pas « not in my backyard ».
Non, voilà, notre lutte, c'est ni ici ni ailleurs. On n'en veut pas parce qu'il n'y a pas. Ce genre de projet n'a plus lieu d'être.
Vous, Sylvain Fresneau, vous vous occupez de l'ADK.
Voilà. Alors, je m'appelle Sylvain Fresneau, je suis agriculteur, j'ai 49 ans.
marié, trois enfants. Je suis en GAEC avec deux associés, donc un voisin et puis ma femme. On est trois associés, on a une centaine de vaches laitières et autour de 180 à 190 hectares de terre, quoi. Alors, on représente à peu près bien le secteur parce que c'est une zone d'élevage. Le secteur Notre-Dame-des-Landes, on appelle ça le bassin laitier de la région de Blain. Et c'est vraiment, toutes les exploitations font de l'élevage.
Beaucoup de lait, un certain nombre d'exploitants et une colère tenace contre ce projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes.
Une colère tenace, une colère qui dure, parce que mon père m'a tout le temps dit que j'étais né avec, donc ça fait plus de 45 ans qu'on se bat contre ça. Moi, je me suis installé en 84, on a fait des emprunts, on a fait des bâtiments et tout ça, on a toujours eu les permis de construire, parce qu'on l'a fait dans la légalité, toujours. Et jusqu'il y a 4 ans, on a refait un bâtiment pour la mise aux normes. Alors là, l'État était un peu coincé parce qu'il nous obligeait à se mettre aux normes et il ne voulait pas nous donner le permis de construire. Donc ils ont fini par nous donner le permis de construire quand même, quoi.
Mais vous arrivez vraiment à ne pas le voir, ce projet d'aéroport, à l'écarter, à le repousser hors de vos têtes, ou bien est-ce qu'il est toujours présent un peu comme une ombre qui plane?
Ça a toujours été une ombre qui plane, un genre de rapace qui est assez haut, mais ce rapace-là commence à descendre un petit peu dans la mesure où il y a eu la DUP déjà en 2008 qui nous a fait mal, déclaration d'utilité publique, et surtout le concessionnaire qui a été choisi en fin d'année et qui lui veut imposer sa loi en disant ouais, bah, c'est Vinci pour ne pas le citer, qui dit bon, bah, moi j'ai la concession, donc avec moi ça va gicler, j'en ai vu d'autres opposants comme ça, il n'y a pas un qui m'a résisté, donc ça va faire comme ça, comme ça et comme ça. Et pour l'avoir rencontré une fois, enfin ses représentants, ils nous ont dit bah, ça y est, monsieur, en 2013 vous dégagez, ce sera fini et tout. Alors, bon, c'est vrai que c'est surprenant, on dort mal la nuit, mais après, avec le recul, et pour les avoir recontactés encore plusieurs fois après, en fait, bon, ben, ils n'ont pas les financements, et puis surtout, on a bien l'impression qu'ils attendent 2012. Pour eux, 2012, c'est vraiment une étape importante. À chaque élection, mais que ce soit cantonale, municipale ou même nationale, à chaque fois, on en reparlait, on remettait une petite couche, quoi. Et on pouvait retrouver les mêmes articles. Il y a un voisin qui collectionne tous les articles. Les articles de 74 et ceux de 90, ce sont les mêmes. Mais les mêmes mots, ce n'est pas les mêmes journalistes, mais ce sont les mêmes, exactement les mêmes
Qu'est-ce qu'ils
articles.
disent?
Bah, qu'il est imminent, qu'il allait se faire. Moi, je l'appelais l'Arlésienne permanente, quoi. C'est vraiment, c'était ça, quoi. Ça allait se faire, ça, mais alors, dans le quart d'heure, quoi. Vraiment, si, si, c'était fait, c'était fait. Et alors, les gens très informés qui nous disent, si, si, moi, je connais le copain d'un voisin, d'un truc, d'un machin, qui est bien informé parce que chez machin, ils ont acheté des camions ou des trucs et des machins. Alors, ça, on a eu régulièrement, ça fait 20 ans qu'on entend parler de ça, quoi.
Mais est-ce qu'il y a des gens qui, du coup, sont partis?
Au niveau agricole, il n'y a pas de gens qui sont partis. En 2000, quand le processus a été lancé, à savoir Jospin qui a lancé l'étude de faisabilité, nous, on s'est compté au niveau des agriculteurs, et là, on s'est recensé, on a vu que, bon, on était moins d'agriculteurs, mais comme dans le reste de la France, parce qu'il y a, le phénomène d'agrandissement des exploitations. Mais qu'on était plus jeune au niveau des chefs d'exploitation, on était plus jeune que le reste du département, mieux structuré et on avait plus de lait par exploitation. Donc d'une zone morte qui voulait, quand ils ont créé la ZAD en 74, zone d'aménagement différé pour créer un aéroport, ce qu'ils voulaient, c'est faire mourir le secteur. Et d'une zone d'aménagement différé, nous, on a fait une zone agricole durable.
Michel Tarin, ce projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, il est à cheval sur quatre communes, c'est ça?
Alors, il est à cheval sur quatre communes. Il faut savoir que nous, on l'a toujours dénoncé, même dès le départ, dès les années 70, on a toujours trouvé que ce projet était un projet surdimensionné, hein, qui n'avait rien à faire dans une région comme la nôtre, quoi. Mais à l'époque, il était dit que c'était pour faire une plateforme aérienne pour le Concorde, hein. Voilà, c'était les années 70. Bon, le Concorde, moi, j'étais un amoureux du Concorde, je peux vous le dire. Je trouve que c'est un appareil fantastique, je trouve des choses, mais il ne vole plus. Sauf que ce projet des années donc 70 a été un peu, pas abandonné, mais mis vraiment en sommeil, hein, jusqu'en 94. En 94, c'est Jean-Marc Ayrault qui a réveillé le projet.
Le maire de Nantes,
Le maire de Nantes, voilà. Alors, on avait déjà vu très, très grand à l'époque, hein. Il faut savoir qu'on avait prévu une zone de 1200 hectares dans les années 70. Et quand nous sommes arrivés en 2008 à la déclaration d'utilité publique, ils ont encore agrandi la zone. C'est 1650 hectares aujourd'hui qui sont pris complètement. Il faut y adjoindre les trois routes départementales qui sont coupées par ce projet. Et la ramification de ces routes, hein, bien sûr, pour les envoyer de chaque bout du projet. Et là, on prend encore plusieurs centaines d'hectares de terre. Et en total, ça fait 2000 hectares qui disparaissent de l'agriculture.
De l'agriculture ?
Oui. Pour prendre un exemple, on a pris plusieurs exemples, nous autres. Hein. Nantes Atlantique, actuellement, c'est 320 hectares. L'aéroport international de Nantes Atlantique, hein, 320 hectares. Celui de Genève, c'est 340 hectares. Celui de Gatwick, sud de Londres, une seule piste comme Nantes, c'est 270 hectares. Et quand on fait le tour, la plupart des aéroports de cette dimension, c'est disons, 300, 400 hectares. Mais ici, il nous faut un aéroport qui est aussi grand qu'Heathrow. Heathrow, le plus grand aéroport européen de Londres, hein, vous savez, le grand hub londonien, qui a deux pistes parallèle de 3600 mètres de long, eh bien, le projet de Notre-Dame-des-Landes, le futur aéroport du Grand Ouest, c'est Heathrow. C'est deux pistes de 3600 mètres de long, 60 mètres de large, et sur 1650 hectares. Alors, quand on voit Heathrow, en 2010, 75 millions de passagers, 580 000 mouvements annuels d'avions, et quand on compare ce qui se fait à Nantes Atlantique actuellement, Nantes Atlantique, c'est 3 millions de passagers, et c'est 38 000 mouvements annuels. Donc, alors, vous voyez les comparaisons. On dit deux choses. La première, c'est que ce projet est complètement surdimensionné, en surface, en équipement, etc. On n'a pas besoin de ça dans l'Ouest. La deuxième, c'est que l'aéroport actuel de Nantes-Atlantique est un aéroport international avec une quarantaine de destinations qui n'est pas au tiers de sa capacité actuellement. Un aéroport comme ça, c'est le même que celui de Genève. À Genève, vous avez 170 000 mouvements et 12 millions de passagers annuellement. Hein? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas en faire la même chose à Nantes ? On n'est absolument pas dépassé à Nantes, et Nantes Atlantique est un bel outil. En plus, c'est un aéroport extrêmement bien desservi. Peu d'aéroports en France régionaux ont le train qui passe à l'intérieur de l'aéroport. Ici, à Nantes-Atlantique, nous avons une ligne SNCF qui passe à l'intérieur de l'aéroport Nantes-Atlantique, qui est Nantes-Pornic, hein, faut le savoir. On est à mettre en place, moi je m'en réjouis, et je trouve que c'est très important, des tram-trains, hein, autour de Nantes. Hein. Eh bien, le tram-train peut venir à Nantes-Atlantique sans problème, vous voyez ? Mais non.
Michel Tarin, vous êtes passé très rapidement sur le fait qu'il s'agissait de terres agricoles. Or, vous êtes quand même, ou en tout cas vous avez été, concerné au premier chef.
Oui. Vous pouvez rêver il y a 30 ans, il y a 40 ans, mais aujourd'hui je pense qu'on est rendu. On arrive dans ce qu'il nous faut changer de système de développement. Pour moi, c'est important. Et il faut conserver maximum de terres agricoles autour des grands centres, hein, c'est-à-dire produire localement, produire et consommer localement. Ça, pour nous, c'est important. On a beaucoup d'AMAP qui se mettent en place sur Nantes. La Loire-Atlantique a le deuxième département au niveau de l'agriculture biologique, il faut le savoir aussi. Mais la Loire-Atlantique a une autre spécificité qui est incroyable, c'est que c'est le département rural, enfin le département français qui dépense le plus de terres agricoles chaque année, hein, l'artificialisation des terres agricoles. Nous sommes depuis 15 ans à 2500 hectares qui quittent l'agriculture ou les zones naturelles chaque année, qui partent en béton, en rond-point, en route, en lotissement. Bon, on sait bien qu'il en faut, mais là, alors tout le monde tire la sonnette de l'alarme. Je pense que la France gâche énormément. D'ailleurs, la France vient de se faire épingler par l'Europe au mois de janvier 2011 sur le fait qu'on gâche 4 fois plus de terres que les Allemands ou que les Espagnols. On ne peut pas continuer de gâcher les terres agricoles comme ça. Alors, il y a une particularité en plus sur ce secteur. C'est un bocage très bien conservé, puisque justement, il n'y a pas eu de remembrement ou de choses comme ça qui se sont passées sur ce secteur-là, puisqu'il était conservé pour faire ce projet.
En fait, si le projet a protégé un petit peu les exploitants en disant on va continuer, on va continuer d'exploiter. Sinon, s'il n'y avait pas eu ce projet, on est tout près de Nantes et on risquait d'avoir des infiltrations ou des gens qui venaient pour du loisir et qui mettaient la surenchère sur les terrains, quoi. Là, quelque part, ça nous a protégés, oui, ça a protégé l'élevage, quoi.
Ça a protégé en tout cas de la spéculation immobilière, quoi.
Pour l'instant, oui. Qu'est-ce qu'il en deviendra après ? Ça, j'en suis pas sûr, mais ça, je suis pas du tout certain de l'avenir. Pour l'instant,
qu'est-ce que vous appelez après ?
Après la décision qui se prendra en 2012. Pour moi, la décision se prendra oui ou non en 2012. Moi, c'est mon barreau, c'est ma limite, quoi.
Mais vous dites qu'à chaque élection, on en reparle. Pourquoi 2012 tout à coup ?
Bah, parce qu'il y a une DUP et que la déclaration d'utilité publique, elle a un laps de temps, elle a une durée de vie. Et il n'y a que un président ou un conseil des ministres qui peut stopper ce projet-là, quoi. Et donc, pour ça qu'on a des relations aussi avec les gens qui sont plutôt dans l'écologie, qui eux nous soutiennent et qui eux se battent aussi contre ce projet, quoi.
Sylvain Fresneau, ce projet, ça vous a à la fois permis de rester, d'une certaine manière, c'est ce qu'on vient de voir, mais ça vous a... Enfin, vous faites la tête, là. Oui, oui, vous seriez resté de toute façon. Mais c'est vrai que ça aurait été difficile aussi de lutter contre la promotion immobilière ou autre. Mais ça vous a aussi, et vous le disiez d'ailleurs au début de l'entretien, ça vous a ouvert sur toutes sortes d'autres milieux, d'autres groupes, des associations. Comment est-ce que ça a modelé les relations entre les gens sur le territoire concerné ?
Eh bien, ça a permis de... Ça nous a ouvert l'esprit, on peut parler comme ça. On a rencontré des gens, on a été obligés de faire des choses dans lesquelles on n'était pas prévu. C'était pas aller parler devant 2000 personnes à Cité des Congrès à Nantes pour défendre la cause agricole. Moi, je n'étais pas formé pour ça. Hein. Je peux vous dire qu'on dort mal la nuit d'avant. Hein. Et donc, on a rencontré des hommes politiques. On les côtoie. Voilà, ils nous connaissent, on les connaît, ils savent notre position, parce que la mienne a toujours été claire, et puis celle des agriculteurs a toujours été claire. Mais c'est vrai que ça nous a ouvert drôlement l'esprit en disant... et même politiquement, maintenant, on sait beaucoup mieux où se situer et où situer les gens, quoi. Et on a discuté encore l'autre jour avec des gens qui sont un peu plus loin, qui sont aussi agriculteurs. Il dit « Qu'est-ce que tu penses de ça ? Qu'est-ce que tu penses ?» Je dis « Il y a ce problème-là et tout. » On a une autre vision complète que des gens qui sont pas confrontés à un projet comme ça n'ont pas, quoi. Parce que là, on a été vraiment mis dans le bain. Là. On nous a jetés dans la mort et puis débrouillez-vous, sortez de là. Hein. Et on essaie de se sortir et on continuera, on va s'en sortir.
Et votre vision sur le projet d'aéroport, elle a bougé ?
Le projet, il est aberrant, il est tout ce qu'on veut. On veut faire un projet bio, un aéroport bio. Et c'est ça qu'on... Alors que nous, on s'est battu pendant des années en disant « Vous voulez faire un projet, d'accord, mais il y a des agro-bio, là, des gens qui sont en bio déjà. Est-ce que vous certifiez leur label ? Est-ce que vous continuez pendant les 20 ans à suivre qui continuent leur label ?»« Ah ben non, on ne peut pas se prononcer et tout. » La Vinci, il arrive, il dit « Ah ouais, moi, je veux tout le monde bio, je mets des subventions en plus de l'Europe, je veux tout le monde bio autour de l'aéroport. Je veux un aéroport bio et, avec des bâtiments passifs, avec des choses comme ça. » Il faut qu'on arrête de se moquer du monde, parce que la première chose, la première écologie à faire, c'est de ne pas faire l'aéroport.
Alors justement, à propos de développement, Michel Tarin, Nantes se pose beaucoup en ville pilote du développement durable.
Oui. Mais nous en discutons tous les jours, y compris avec Jean-Marc Ayrault. Hein. Nantes va même être, en 2013, je crois, la ville la plus verte de l'Europe, etc. Moi, je pense qu'à Nantes, il y a des belles choses qui ont été faites. Il y a des belles choses qui se font aussi. Hein. Et c'est dommage d'entacher, justement, l'image de Nantes, de ses habitants, du travail qui est effectué sérieusement par quelque chose qui est vraiment inutile et qui va complètement contre le développement qu'on voudrait voir aujourd'hui.
Mais il est quand même haute qualité environnementale, cet aéroport.
On commencerait par raser 90 km de haies bocagères. C'est un bocage magnifique, 90 km de haies bocagères, pour mettre cette plateforme en place. On va y évacuer une quinzaine, voire une vingtaine d'exploitations totalement, et une quarantaine d'exploitations agricoles ne pourront plus fonctionner, mais il va y avoir une ferme musée dans l'aérogare pour expliquer aux voyageurs ce qu'était l'agriculture avant l'aéroport. Donc une ferme laitière avec le bruitage, les odeurs, etc. Donc, Vinci se propose de mettre une AMAP en place. Alors écoutez, une AMAP, nous, les agriculteurs, c'est des consommateurs qui s'organisent avec des producteurs et qui constituent une AMAP. Mais ce n'est pas une société ou ce n'est pas quelque chose qu'on impose ou qu'on met en place comme ça. C'est quelque chose d'associatif. Donc là, ils se sont trompés, mais ils ne savent sans doute pas ce que c'est qu'une AMAP. Alors, ils ont prévu aussi un point de vente pour les agriculteurs.
Dans l'aéroport ?
Dans l'aéroport, oui. Alors, on ne sait pas trop ce que donne le lait des vaches ou autre autour d'un aéroport, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'aéroports, et c'est vrai.
Juste avant d'enregistrer vos bagages, c'est pas mal.
Oui, c'est ça. On propose aussi de chauffer l'aéroport au bois déchiqueté, parce qu'on est dans un bocage, il y a beaucoup de haies, mais après avoir arraché les 90 km de haies, et les 50 hectares de bois magnifiques, parce que vous verrez demain, il y a un bois magnifique. Donc, bon, je m'arrête là parce que c'est totalement révoltant. Totalement révoltant.
Thierry Masson, vous êtes pilote de ligne.
Voilà, je suis officier pilote de ligne depuis 22 ans. 18 000 heures de vol à mon actif, dont 14 000 heures à transporter des passagers en Europe sur du court moyen courrier.
Vous vous êtes intéressé à ce projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. C'était le plaisir d'avoir une nouvelle piste bientôt à utiliser ?
Non, pas du tout. Aussi belles que puissent être les pistes que nous fréquentons, la pertinence d'un grand aéroport avec deux pistes, qui plus est à Nantes, ma région d'origine, paraissait très surprenant. Et les propos tenus par diverses associations opposées au projet semblait non dénué d'intérêt, et surtout les propos des porteurs du projet, eux, paraissaient complètement incohérents, entachés d'allégations. Donc je me suis manifesté lors d'une réunion publique un jour devant un tas d'aberrations énoncées.
Comme par exemple ?
Comme par exemple des avions qui déballastent du kérosène au-dessus de la ville de Nantes avant d'atterrir, qui vidangent leurs toilettes. Nous étions dangereux, des cow-boys, je l'ai entendu de la part d'élus politiques de premier rang dans la région.
Ça, on disait ça, des avions, enfin des lignes existantes, des avions qui venaient se poser à Nantes Atlantique.
Voilà, actuellement, c'était le problème de l'aéroport de Nantes, qu'il fallait à tout prix déménager, lié à sa dangerosité, d'une part, avérée. Propos tenus par les porteurs du projet, ça semblait tellement extraordinaire que ne pouvait pas laisser, en tant que citoyen, qui plus est pilote, ne pouvait pas laisser des choses comme ça, être énoncées devant 400, 600 personnes en réunion publique. Donc là, je me suis manifesté. Et dans la dynamique, on a créé un collectif de pilotes doutant de la pertinence de cet aéroport, du projet Notre-Dame-des-Landes.
Mais vous pouvez nous préciser qu'est-ce qui, de votre point de vue de pilote, est si aberrant ?
Alors, beaucoup de choses énoncées. D'une part, la saturation de l'aéroport de Nantes Atlantique.
C'est donc faux ?
Donc, c'est complètement faux. Il y a des documentations de la littérature officielle, issues du ministère des Transports, d'une délégation qui s'appelle la Direction Générale de l'Aviation Civile, qui démontre très clairement que sur les 5 critères retenus pour envisager la saturation à terme d'un aéroport, Nantes-Atlantique en est très loin. Ce sont des docs officiels. La dangerosité de l'aéroport n'existe pas non plus, nulle part. L'aéroport de Nantes fait partie des 99% des aéroports européens les plus sûrs, sans aucune recommandation. Le danger animalier n'existe pas. Le survol de la zone Natura 2000 n'existe pas. Nous n'ingérons pas des canards ou des oiseaux, où nous terminerions à terme les deux moteurs arrêtés avec des canards dans les réacteurs, comme un avion sur l'Hudson aux États-Unis après avoir ingéré des oies. Non, ça n'existe pas.
En revanche, peut-être qu'il est pertinent, plausible de construire un nouvel aéroport très beau, très moderne, très grand.
Alors, effectivement, pourquoi pas envisager la construction d'un grand aéroport avec deux pistes intelligemment construites. Je précise bien intelligemment construites, puisque le projet Notre-Dame-des-Landes nous annonce deux pistes non parallèles. Ça n'existe nulle part en Europe. Nulle part. La dernière construction avec des pistes non parallèles qui plus est en France, c'est Orly. Ça date des années 50. Si c'est un gros avion type A380, on nous vend la 380 bientôt à Notre-Dame-des-Landes. Il mettra peut-être 200 passagers au lieu de ses 500 ou 600 passagers. Il ne mettra même pas du carburant pour pouvoir décoller de Notre-Dame-des-Landes parce que les pistes sont trop petites et pas assez larges. Les parkings, demain, à terme, sur Notre-Dame-des-Landes, à l'ouverture pour 4 millions de passagers en 2017 ou 2018, si le projet va à son terme, les parkings, les surfaces de parking avion sont plus restreintes qu'à Nantes-Atlantique actuellement. On nous parle d'une extension de Notre-Dame-des-Landes aux horizons 2065, mais pourquoi pas l'envisager d'ores et déjà à Nantes-Atlantique à la place, avec 320 hectares, je crois, à Nantes-Atlantique, contre les 900 sur Notre-Dame-des-Landes.
Est-ce qu'on parle beaucoup dans les compagnies aériennes de l'extension exponentielle du trafic aérien dans les années à venir ?
Alors, excellente question. Effectivement, il y a encore quelques toutes petites années, il y avait une croissance de l'ordre de 2-3% de manière linéaire pour les 15 prochaines années. Les modèles économiques faits par aussi bien les sociétés Boeing qu'Airbus tablaient sur ces croissances, mais liées au coût du carburant dans nos avions. Si le pétrole a un coût au baril inférieur à $90, effectivement, il peut y avoir une croissance encore linéaire pour les 15 prochaines années. Au-delà des $90, ce ne sont pas des chiffres que nous inventons, c'est Boeing ou Airbus, il suffit d'aller les rechercher, tous les modèles économiques s'écroulent. Aujourd'hui, les grandes compagnies européennes, dont la mienne, je suis parti en France, avec une autre compagnie hollandaise, tablent sur un coût du kérosène à $115. La nouvelle est de ce matin. Les derniers budgets sont faits sur une base de $115, sachant que la réflexion à terme, c'est sur un baril qui dépasserait à minima les $145 dans les deux prochaines années. Donc on explose tous les modèles de prévision. Pour des très grandes compagnies aériennes, le carburant aujourd'hui est un poste financier qui représente 20% de nos coûts. Pour les low cost, qui sont un modèle économique qui a été retenu peut-être pour Notre-Dame-des-Landes, il serait intéressant d'y revenir, c'est plus de 45% du coût fixe. Donc il n'y a pas de modèle économique qui tienne la route à cause du carburant. Les compagnies aériennes aujourd'hui réduisent le nombre d'avions, même si elles augmentent le nombre de sièges par avion, elles réduisent le nombre d'avions et le nombre de vols.
Gilles De Nigaud, vous étiez conseiller général jusqu'à il n'y a pas très longtemps, jusqu'aux dernières élections. Et il semblerait que ce projet d'aéroport ait eu un impact sur votre carrière politique.
Oui, enfin sur ma carrière, oui, sur l'élection, sans doute sur l'élection notamment, quoi, puisque le Parti socialiste avec lequel on avait un accord sur le canton de Saint-Nazaire a jugé utile principalement à cause de mon opposition ferme et sans compromis à cet aéroport, de mettre un candidat contre moi, effectivement, ça m'a coûté le canton. Le seul canton que les écologistes avaient sur le département.
Depuis combien de temps ?
J'étais élu il y a 3 ans et j'ai mené effectivement au Conseil général un combat permanent contre cet aéroport que je juge inutile, coûteux, économiquement infondé, etc. et qui cache bien d'autres manœuvres et projets que celui de l'utilité d'un nouvel aéroport dans la région. Donc je ne regrette pas ce combat et même si j'ai perdu, c'est la tête haute parce que j'ai défendu mes convictions et je vais aujourd'hui, que j'ai du temps libre, continuer à le faire et à aider les opposants à cet aéroport.
Mais quelle est l'ambiance chez les élus, d'une manière générale, face à ce projet ?
Ben c'est compliqué. Je crois que ça empoisonne l'ambiance collective du Conseil général, quelles que soient les familles qui siègent au Conseil général. Et on voit bien que certaines personnes, sans être intrinsèquement, j'ai envie de dire, favorables au projet, soit parce qu'elles le connaissent mal, soit parce qu'elles ne le considèrent pas indispensable, sont très gênées. Mais après, on rentre dans des problèmes de discipline, de formation politique assez classiques. Et c'est ça qui crée une difficulté supplémentaire. Mais je pense, à titre personnel, que malgré cette ambiance difficile entre les plus rudes, quelles que soient les familles politiques qui sont favorables à ce projet, et les opposants, dont je fais partie, une grande partie de mes collègues au Conseil général ne serait pas fâchée si ce projet se faisait pas. ne serait pas fâché si ce projet se faisait pas. Mais on bouge pas trop, parce qu'il y a cette discipline de parti qui fonctionne.
Mais tout de même, Gilles Denigaud, est-ce que votre passage au Conseil Général vous a fait découvrir des aspects du projet que vous ne connaissiez pas et vous a permis de nuancer peut-être votre opposition ?
Et c'est l'inverse, en fait. Je suis arrivé au Conseil Général sans bien connaître ce projet. C'est précisément, comme pour tous les dossiers que j'ai abordés dans le mandat qui était le mien, je présidais la commission économie-environnement en charge de l'agriculture et du tourisme, que j'ai véritablement travaillé, étudié, regardé les détails de ce projet pour me dire « mais Gilles, ce projet-là, il est inacceptable, ce projet est inutile ».
Quels sont les traits saillants qui vous paraissent les plus inacceptables ?
Inacceptable. Écoutez, on ne fait pas aujourd'hui disparaître quasiment 2000 hectares de terres agricoles sur un espace périurbain à la porte des villes parce que nous aurons besoin partout en France, dans 10 ans, dans 15 ans, de plus en plus de cette alimentation, de ces circuits courts, de cette agriculture périurbaine. Première chose. Deuxième chose, il y en a un aéroport. S'il a des défauts, il faut les corriger. Troisième chose, très honnêtement, au moment où on nous dit que les collectivités publiques, de l'État aux collectivités locales, parce que tout le monde met de l'argent, c'est-à-dire que les contribuables payent plusieurs fois, qu'on n'a pas d'argent et qu'on a une dette, on n'emprunte pas pour ensuite prêter de l'argent à Vinci, qui en a sans doute beaucoup, pour faire ce type de projet. Donc je pourrais dérouler une multitude d'arguments qui font que ce projet-là, très honnêtement, quand on fait de la politique, il faut être capable de dire non. Il n'y en a pas besoin. Il y a d'autres priorités sociales, économiques et écologiques.
Je vais vous demander un exercice difficile, là, Dominique Frénaud. C'est de nous raconter, en résumé, les épisodes marquants de la lutte. Alors peut-être pas les 40 années, parce que ça ferait beaucoup, mais en tout cas les dernières années.
Ah, les dernières années, c'est vrai que depuis la création de la CIPA, en fait, en 2000, hein, suite à la déclaration de Lionel Jospin qui remettait ça au goût du jour, eh bien, c'est vrai qu'on a demandé un débat public, hein, puisque ça faisait partie des nouveaux critères, nouveaux moyens d'expression, on va dire, du citoyen. On y a cru beaucoup, d'expression sur le projet d'aéroport. Et donc, en 2002, on a eu droit, en 2002-2003, à un débat public. Et bon, il y a eu beaucoup, ça a été un grand défouloir. C'est vrai que c'était quelque chose qui était assez important parce que les gens avaient besoin d'en parler. Mais bon, ça a déçu tout le monde puisque ça n'a pas abouti. En fait, on n'a pas étudié le projet d'aéroport, son utilité. On a étudié comment on allait faire à Notre-Dame-des-Landes. Et donc ça frustrait un peu les gens. Et donc, il y a eu, suite à ce débat public, il y a eu ensuite l'enquête publique, l'enquête d'utilité publique qui a eu lieu en 2005-2006. Et là aussi, toujours le même problème, on ne veut pas étudier les alternatives. Et donc, encore une nouvelle frustration. Il y a eu suite à ça, on a donc fait une fresque humaine avec près de 5000 personnes qui sont venues écrire non à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, hein, sur le bocage, avec leurs personnes, et c'est vrai que c'était assez important, ça nous a permis déjà de nous faire connaître aussi. Et puis, suite à ce débat, à cette enquête publique, où les commissaires enquêteurs, même pas tous d'accord entre eux, ont dit que c'était un pari sur l'avenir et que ce pari n'était pas gagné, eh bien, nous, on a continué. Il y a eu la déclaration d'utilité publique le mois de février 2008, et là, on a fait une grande manifestation où près de 10 000 personnes se sont rassemblées à Nantes contre ce projet d'aéroport. Et là aussi, encore une fois, ça nous a rendu confiants dans notre lutte. Hein. Ça a vraiment joué dans la lutte en 2008. Et puis, à chaque étape maintenant, de toute façon, il y a des manifestations sur le terrain, des gens qui viennent, qui s'opposent au forage, au sondage. Régulièrement, il y a des enquêtes publiques qui continuent. Hein. C'est-à-dire qu'on a une enquête là, parcellaire. Donc, il y a les propriétaires qui s'opposent, des gens qui n'ont encore pas vendu leur terre au département et qui veulent absolument s'opposer de cette manière-là. Voilà, les élus, tout le monde continue à manifester avec nous. Et je pense que de ce côté-là, on va réussir à bouger l'opinion et qu'au bout d'un moment, on va arrêter ce projet.
C'est-à-dire que vous maintenez une présence constante de manifestations, Il y avait eu un camp Action Climat aussi ?
Alors en 2009, on a fait venir le camp Action Climat à Notre-Dame-des-Landes. C'est une action qui se faisait plus au niveau européen, mais dans les pays anglo-saxons. Et nous, avec les Amis de Silence, une revue bien connue en France, on a décidé que ça aurait été bien que c'était bien d'accueillir ce type de manifestation. Et avec ce camp Action Climat, eh bien, est venue aussi toute une certaine mouvance de gens qui ont une autre vision de la société, qui ont voulu s'installer pour nous aider sur le site du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Et depuis 2 ans maintenant, il y a des gens qui sont installés, ont des métiers, s'occupent sur le terrain en jardinant. Et puis on se rend compte que maintenant il y a un développement à ce niveau-là. On a un boulanger, on a des jardins qui fonctionnent. Et puis c'est une nouvelle forme de résistance sur le terrain. Et des gens qui sont venus et qu'on a accueillis et qu'on est content aussi d'avoir dans l'opposition à ce projet d'aéroport. Alors on a aussi, comme moyen de lutte, on a citoyens vigilants. C'est-à-dire qu'il y a tout un groupe d'opposants à l'aéroport qui se sont dit on va faire une action non violente, mais pour sensibiliser surtout les élus et les Nantais sur ce projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Et donc depuis le 22 octobre 2009, il y a en permanence quelqu'un devant une vigilance, des citoyens vigilants qui sont là et qui...
Où ça, là ?
À Nantes, devant le Conseil Général. Maintenant, devant le Conseil Général, devant, on va dire, le siège de l'UMP et le siège du PS à Nantes, régulièrement, et qui sont là tous les jours d'ouverture, 6 jours sur 7, et qui sont là en permanence pour crier cette opposition et pour dire aux élus de réfléchir encore, de réfléchir sur ce projet d'aéroport complètement insensé.
Donc tout le monde peut s'inscrire pour faire la vigie ?
Ah, tout le monde s'inscrit. Et pour l'instant, il y a une permanence. On a réussi à boucher tous les trous, tous les jours de permanence à Nantes. Et c'est vrai que ce sont des gens qui viennent parfois de très loin pour tenir cette vigie et qui s'opposent à leur manière, de manière passive, à ce projet d'aéroport. Avec juste une chasuble pour dire qu'ils sont opposés et que ça va encore coûter beaucoup d'argent aux contribuables.
Une résistance installée. Est-ce qu'en face, il y a une répression installée ?
Alors, à chaque fois, bien sûr, nous, en face, on a répression, puisque de toute façon, dès qu'on s'oppose au sondage, c'est tout de suite 200 gendarmes en permanence sur Notre-Dame-des-Landes. À chaque enquête publique, c'est une présence de gendarmes mobiles, vous savez, casqués, et bombes lacrymo, parce qu'on n'a pas le droit d'intervenir, on n'a pas le droit de bouger... des quatre pieds. Et c'est vrai que de ce côté-là, ça renforce aussi, on va dire, la détermination des gens contre ce projet d'aéroport, puisque c'est avoir une réaction aussi violente et mettre autant de forces de police face à des gens qui sont, pour l'instant, de toute façon, il n'y a jamais eu de violence des opposants au projet d'aéroport, et mettre une présence policière aussi forte, ça veut dire que, quelque part, on veut faire passer ce projet par la force. Et donc ça nous... On va dire que ça contribue à nous renforcer dans notre motivation pour nous opposer à ce projet d'aéroport, quel qu'il en soit.
Il y a d'autres actions prévues ?
Alors, les autres actions, tous les ans, on fait des pique-niques pour informer les populations locales et en même temps pour rassembler toutes les associations qui viennent se poser à ça. Et puis là, on a encore de prévu pour cet été un grand rassemblement politique avec des meetings, avec des représentants nationaux d'organisations, de partis politiques qui vont venir à Notre-Dame-des-Landes dire une fois de plus leur opposition à ce projet d'aéroport. C'est donc le 8, 9, 10 juillet. Et puis ça se situera donc sur le projet d'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Voilà, Noé Verte, Vigneault de Bretagne.
Oui. Michel Tarin, ça plairait évidemment beaucoup de repérer des divisions au sein des différents mouvements, des différents groupes qui luttent contre ce projet d'aéroport. Vous préférez parler de la diversité de ce mouvement ?
Bien entendu. Hein. Pour nous, toute personne, tout citoyen, tout individu qui veut venir sur la zone hein, pour soutenir notre action, bien sûr, mais aussi pour s'installer. Quand on voit nos forces de police ou la préfecture ou certains porteurs du projet dire il y a des gens malvenus sur le site, qu'on baptise les autonomes ou qu'on baptise les squatteurs ou je ne sais quoi, nous on dit ce sont des habitants et ce sont des gens qui sont là pour nous et qui ont le droit d'être là, quoi. Donc on est pour la diversité, oui.
Et est-ce que vous n'avez pas le sentiment même que ça apporte quelque chose? Je trouve ça intéressant, cette notion d'une lutte hétérogène, parce que c'est vrai que pendant très longtemps, on avait affaire à des groupes très uniformes.
Ah oui, ça sûrement. Mais on a un petit peu de recul aussi là-dessus. Hein. Moi, je suis un ancien du Larzac. Hein, et donc, quand les copains du Larzac ont vu une multitude de personnes arriver comme ça, et je dirais dans mon jargon, la mayonnaise a très bien pris d'ailleurs, puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont restés sur le site là-bas et qui ont donné une nouvelle vie, qui ont apporté une ouverture. Et ça, on le ressent actuellement. Hein. Des gens qui ont, qui pensent un peu différemment de nous, qui ont des méthodes de travail différentes, qui ont des approches aussi sur la biodiversité qu'on n'avait pas. Enfin, bon, je crois que c'est effectivement très riche dans le camp des échanges, quoi. To the doubting boys by your side.
Qu'est-ce que c'est que ce lieu, les S'enchaînent, Mathilde ?
D'abord, c'est le lieu où on habite. Et on a choisi de venir habiter sur ce terrain en opposition au projet d'aéroport. Donc c'est un lieu occupé. On est en occupation illégale. C'est un squat sur une friche qui appartient au Conseil Général. Et dans l'optique, en fait, de résister à ce projet et aussi d'y construire un autre mode de vie. Et on est seulement un des lieux ici, en fait, qui est occupé de cette façon-là. Il y a entre 15 et 20 lieux sur la zone d'aménagement différé, enfin l'ancienne ZAD, qui sont occupés comme ça en opposition à ce projet.
Occuper un lieu, ça veut dire y vivre, y travailler, y développer des activités
Y vivre, c'est sûr, et y développer des activités. Après, le travail, tout dépend de ce qu'on entend derrière travail. Si c'est un travail salarié, pas beaucoup d'entre nous. Y développer des activités, ça peut aller...
Je dis développer des activités parce que quand je suis arrivée, je vous ai vu avec tout un groupe d'enfants que vous étiez en train d'initier à un jeu.
Oui, en fait, on a eu envie de pouvoir accueillir des enfants ici, puis leur parler aussi de pourquoi on occupe. Et on a lancé des après-midi jeux sur les mois là, de printemps. Et ça, c'est ce que nous, on porte ici. Mais il y a aussi la boulangerie, le jardinage... les chantiers collectifs de construction, les ateliers de partage de savoir-faire, les vélos, etc. Que sais-je. Beaucoup d'activités qui sont initiées par les différentes personnes qui sont présentes.
En fonction de ce qu'elles savent faire ?
Oui, et ce qu'elles ont envie de partager avec d'autres. En fait, du coup, sur plus de 15 lieux occupés, c'est plein de gens avec des méthodes et des savoir-faire, des fonctionnements différents. Donc c'est aussi l'occasion d'expérimenter d'autres choses et de se les partager.
Damien, vous, c'est la boulangerie ?
Entre autres, je ne fais pas que ça. Maintenant, à la base, je suis boulanger de métier. Et du coup, en arrivant ici, moi, j'avais envie de continuer ça. Et du coup, là, je suis en train de finir de construire le fournil pour ouvrir une boulangerie sur place.
Ici même ?
Ici même, ouais.
Sur la friche ?
Sur la friche, ouais, dans la maison. Du coup, on a construit une maison en paille. Et du coup, on l'a agrandi pour qu'il y en ait une partie qui serve de fournil. Du coup, le pain sera fait ici, sera vendu sur place, peut-être sur un marché, mais ce n'est pas encore sûr. Et du coup, c'est pareil, c'est un prétexte pour rencontrer du monde, qu'il y ait des gens qui passent ici. Et voilà. Et moi, j'aime ça. Du coup, ça va me permettre d'en vivre en partie.
C'est comme si ce lieu, un lieu barré, en quelque sorte, ça vous avait permis aux uns et aux autres de démarrer quelque chose de complètement neuf. Mathilde ?
Je pense que... Enfin, la motivation de l'installation, c'était le fait qu'il y ait le projet. Mais en effet, le fait que ce soit... Enfin, que du coup, on ait cette ouverture à tous les possibles, un peu, ça permet d'expérimenter plein de choses avec assez peu de barrières. Ne serait-ce que le fait qu'il y a, je ne sais pas, il n'y a pas de loyer ou... Voilà, ou pas de... On sait qu'on monte tout de façon relativement illégale. Donc, que c'est aussi, voilà, des modes d'expérimentation pour beaucoup de choses, quoi.
Ça fait combien de temps qu'il y a des lieux occupés comme ça ?
Alors en fait, le mouvement d'occupation, il a vraiment pris de l'ampleur suite au camp climat, camp Action Climat qui a eu lieu à l'été 2009 et où il y a eu un appel à occuper les lieux qui a été lancé. Du coup, suite à ce camp, donc ça fait depuis l'automne 2009, il y a les premiers lieux qui ont été occupés, des maisons squattées ou des terrains défrichés pour poser des cabanes, des yourtes, des tentes, etc. Et puis ça grandit en nombre depuis ce moment-là, quoi, donc un an et demi.
Nous, on est venus ici aussi parce qu'il y avait un truc où on avait un peu la niaque. Ceux qui viennent s'installer ici, c'est qu'ils sont vraiment motivés. Sinon, c'est pas forcément la chose qui est le plus simple à faire. Mais c'est super intéressant. C'est vrai qu'il y a énormément de personnes. On dit qu'il y a entre 15 et 20 lieux. Et du coup, ça fait à peu près entre 60 et 80 personnes, on va dire, un peu en squat. Qui sont, voilà. Et du coup, tout le monde a énormément à échanger. Là, par exemple, ce matin, on était sur un chantier. On a plusieurs parcelles de jardin collectif. Et ce matin, là, on est en train de planter les patates de manière collective à une dizaine sur une parcelle. Quoi. Et c'est hyper enrichissant, quoi. Par contre, le problème au niveau de l'État, c'est que des gens qui vivent un peu comme nous, ça ne génère pas du tout de PIB, d'argent, ni quoi que ce soit. Du coup, pour nous, c'est enrichissant, mais pour l'État et pas mal de personnes, il n'y a pas grand-chose à gagner financièrement. Et même financièrement, nous, on ne s'enrichit pas non plus.
C'est une des particularités, il me semble, de ce que vous avez mis en place ici, c'est que vous n'êtes pas comme la génération des néo-ruraux du début des années 70 qui partaient loin. Des villes, loin des lieux où se passaient les choses. On a le sentiment que vous êtes au cœur des problèmes, d'une certaine manière. Damien ?
Peut-être que si on compare par exemple aux années 70 ou ce genre de choses, peut-être que nous c'est un peu plus concret. Peut-être justement parce qu'on a vu que. On n'était pas là, mais on l'a su après, quoi. Que ce qui s'est passé en 70, c'était plein d'ambition, mais c'était pas forcément très réaliste. Il y a des choses contenues, il y a des choses qui sont cassées la figure. Et peut-être que là, on part avec cette expérience et qu'on essaye de partir sur du plus concret, du... peut-être moins rêveur, un peu plus terre-à-terre. Mais tout en pensant qu'il y a encore plein de choses à faire et qu'il y a plein de possibilités et qu'on rêve aussi, mais...
Quand même.
Oui, quand même, c'est sûr.
Mathilde.
Ouais, moi, je pense... j'aurais pas forcément envie de porter un jugement ou un regard sur ce qui s'est passé dans les années 70 parce que...
C'est pas un jugement, c'est
non,
juste...
Enfin, je pense que j'ai pas le recul suffisant, en tout cas, ou la connaissance des choses pour comparer, mais... ce que je trouve intéressant ici, c'est ce tissage entre les différentes dynamiques collectives et le fait qu'on se rend compte aussi que cette opposition au projet d'aéroport, elle peut être comprise et vécue de plein de façons différentes. Et que nous, on a l'impression de porter une opposition qui n'est pas seulement une opposition à l'aéroport, mais aussi à tout le monde qui va avec. Et quand on dit ça, c'est très large, mais chacun y met des choses différentes.
Oui, mais si on commence à décrire qu'on voit effectivement une maison en paille, un panneau photovoltaïque, un tonneau de récupération d'eau de pluie, on comprend un peu mieux.
Oui, il y a des éléments, bien que le photovoltaïque, on en reparlerait. Après, l'idée, c'est pas d'être exemplaire, c'est de tenter quelque chose qui nous semble plus cohérent pour nous. Et dans ce projet d'aéroport, de le vivre plutôt comme quelque chose d'emblématique de tout un système et de toute une société qu'on n'a pas du tout envie de cautionner ni de faire tourner.
Marie, ça fait déjà 10 ans que vous êtes installée ici.
Oui, tout à fait.
Vous vous êtes intéressée à cette alchimie qui se passe ici et qui n'est pas si simple, le mélange de populations très diverses qui se sont toutes retrouvées, en fait, happées par cette histoire et qui, du coup, se sont retrouvées à avoir quelque chose en commun, ce qu'elles n'avaient pas imaginé.
Oui, tout à fait. Je fais de belles rencontres avec ces personnes. Je suis contente de les connaître. Il y a des échanges sur, ça peut être sur la fabrication du pain, voilà, de faire quelqu'un qui fait du pain, qui a un accueil formidable. C'est des personnes qui m'expliquent aussi tout ce qui est plantes et d'autres façons de voir le monde que j'avais peut-être pas, même des ouvrages que j'avais peut-être pas vus, moi, tous mes 44 ans. Donc, au moins pour ça, moi, je les remercie. J'ai été élevée, comme beaucoup. Faut aller travailler, faut gagner son argent, faut, voilà, quoi qu'il arrive. Et, sinon, c'est un peu... Il y a quelque chose qui ne va pas. En discutant avec eux, je me suis rendu compte que cette notion de travail, qu'est-ce qu'elle voulait dire ? Qu'est-ce que ça voulait dire, quoi ? Je ne sais pas, je ne m'explique pas très très bien, mais...
Ce qu'on comprend bien, c'est que ça a bousculé des choses sur lesquelles vous ne vous interrogiez pas,
Voilà, où je ne m'interrogeais pas, ouais, tout à fait. Où c'était quelque chose qui, pour moi, était très loin, quoi. À la limite, je ne comprenais pas trop, quoi. Sauf que maintenant, je respecte le droit de lutter déjà contre quelque chose qui est pas non. Enfin voilà, il y a quelque chose d'inadmissible là-dedans. Enfin voilà, c'est plus que le fait d'avoir un aéroport. C'est qu'on est en train de... On ne nous demande pas notre avis, on nous impose des choses, au niveau politique, c'est une catastrophe. Chacun se renvoie de tous les bords, hein, de toute façon, juste pour le profit. Le profit, le profit, le profit, quoi qu'il arrive. Et nous, là-dedans, qu'est-ce qu'on fait ? Nous, les humains, hein, donc je parle pas plus...
Finalement, au départ, j'imagine que comme tout le monde, vous avez été agacé, choqué par ce projet d'aéroport, et vous avez découvert à travers ces années de lutte et surtout tout ce que ça a créé comme apport nouveau, vous avez découvert que le problème était bien plus vaste.
Tout à fait, c'est exactement ça, ouais. Ce n'est pas que l'aéroport, c'est la vie qu'on nous propose. Ouais, on marche sur la tête, quoi. Enfin, voilà, c'est ça, c'est, c'est de supprimer les hôpitaux, c'est de dire qu'il y a... Voilà, les fonctionnaires, il y en a un peu trop. Les instituteurs, c'est pareil. Il faudrait qu'ils en fassent un petit peu plus, quoi, hein, parce que ça ne fonctionne pas. Enfin, voilà, c'est tous ces domaines-là qui, pour moi, ça, c'est injuste, quoi.
Tous ces domaines-là, ils sont liés ?
Et ils sont liés. La rentabilité. Et puis, on n'écoute plus les gens, quoi. Par contre, on leur fait croire qu'on les écoute. Ça, par contre, ça, c'est nouveau. On fait des débats publics, beaucoup. On leur dit de participer aux réunions, qu'on va les écouter. Donc au départ, même moi, j'y ai cru, je me suis dit oui, c'est vrai, c'est bien, ça part d'un bon principe. Donc on y va avec ses cœurs, c'est voilà, on écoute ce qu'on nous dit, et puis à la fin, bah, en fait tout est vu d'avance, quoi. C'était déjà décidé. Donc voilà, et après on vous explique aussi, comme c'est décidé, faut rien faire, ça va être fait.
Et donc aujourd'hui, vous ?
Nous, aujourd'hui, je te dis nous parce que je ne suis pas la seule. Hein, les habitants qui résistent représentent tous ceux qui sont habitants de locations où on va être peut-être virés. Toutes les personnes qui sont sur la ZAD également. On luttera jusqu'au bout. Ce n'est pas gagné, mais on ne les laissera pas gagner non plus, quoi. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas un combat... Déjà, ce n'est pas inutile, quoi. Et puis, on ne le fait pas juste parce qu'on a envie de ne pas être d'accord. Ce n'est pas ça. C'est viscéralement, il y a quelque chose, c'est pas normal. Et quand c'est pas normal, on se bat jusqu'au bout. It's the last goodbye, I swear. I can't rely on a dime a day alone that don't go anywhere. Aujourd'hui même, 7 mai, commence une manifestation occupation avec les occupants de la ZAD, la zone à détruire ou zone d'aménagement différé ou zone à défendre. Donc il est possible soit de se rendre sur place à partir de la Paclay à 10h ou de les rejoindre les jours suivants pour une occupation. Vous savez que vous pouvez réécouter ou télécharger cette émission pendant 15 jours sur notre site franceculture.com. Vous y retrouverez notre revue de web hebdomadaire. Notre numéro de téléphone, c'est le 01 56 40 36 72 et notre adresse, terre à terre, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220, Paris, CEDEX 16. Terre à terre vous est proposé par Ruth Stegassi, préparation, documentation, Laurence Genepin, Anne Gouzon, mixage, Régis Nicolas, réalisation, Olivier Bétard. Bonne semaine à tous.